de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 15 janvier 1987.
Excusez-moi de vous avoir fait attendre, mais c'est très bien comme ça, vous pouvez méditer un peu philosophiquement. Vous avez dit la grève fait sauter la coopération. Fait sauter la coopération. Et oppose ceux qui commandent et ceux qui exécutent. Dans quel cas la grève est-elle légitime? C'est un très grave problème et très intéressant. Peut-on dire que c'est lorsqu'elle ne touche pas le bien commun ou qui concerne toute la communauté politique? C'est très vrai. C'est là, je crois, la limite. Je crois qu'une grève qui regarde le bien commun et qui, par le fait même, arrête la marche du pays, ou met le pays dans un état un peu tragique, point de vue économique. Vous voyez, on fait plus de mal que de bien. Parce que c'est quand même la question. Si c'est un acte humain, il est ordonné vers le bien commun. Il y a des limites à la grève. C'est très difficile comme principe. Le principe, je crois, est là. Quand j'interroge des gens qui sont un peu dans la politique, qui essaient de voir clair, c'est toujours là où on en arrive. On comprend que la grève puisse être dans certains cas le moyen de réclamer. C'est vrai. C'est un moyen qui doit toujours être extrême. Et donc quand ça se répète, ça perd sa force. Et bien là, ce qui est toujours très difficile, c'est que c'est politisé. Dès que c'est politisé, ce n'est plus permis. Parce qu'on n'a pas le droit, au sens rigoureux, de faire la grève pour faire sauter un État, sauter un gouvernement. Ce serait trop facile, vous voyez. Un gouvernement, aujourd'hui, quand la France est divisée en deux, n'importe quelle chose peut faire sauter alors. Donc, c'est l'anarchie. Et on sait que l'anarchie est souhaitée par certains qui nous regardent pour mettre la main dessus. Et on sait très bien, si on n'est pas dupe, on sait très bien que c'est ce vers quoi nous allons. C'est pour ça qu'au fond, la dernière grève, les gens qui ont vécu la dernière grève ont été particulièrement atteints. En disant c'est une grève politique, c'est une grève qui a toutes les apparences de quelque chose qui est téléguidé de très haut. Quand on voit les personnes qui sont au niveau diplomatique, international et européen, ils le disent. Ça leur va des coups de chien très durs, c'est bien évident. Pendant, si on arrive à si l'Europe arrive à rester, qu'elle laisse un libre, ou bien si elle sera entièrement prise, et que dernière grève comme celle-là, on m'a raconté comment c'était la grève des étudiants. Or la grève des étudiants a donné naissance à l'autre grève, ça s'est enchaîné, c'est très grave, et la grève des étudiants était particulièrement téléguidée, parce que les étudiants, ce sont ceux qu'on quitte absolument le plus facilement. Ce que les étudiants pensent pas, n'est-ce pas? C'est pas ici, n'est-ce pas? Mais les étudiants ne pensent pas, c'est-à-dire ils se laissent conduire, ils se laissent, ils sont enchantés de faire ça. Déjà, les ouvriers, c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais c'est très curieux, c'est pas les syndicats qui ont commencé. Donc c'était téléguidé par autre chose. Et les syndicats ont marché dedans. Alors ça, c'est autre chose, mais c'est important, nous devons, autant que possible, avec le sens de la piété filiale pour le pays, avec Saint-Rémy, n'est-ce pas? On doit prier Saint-Rémy particulièrement. Et alors, on doit avoir ce sens de piété filiale vis-à-vis du pays, et comprendre que certaines grèves peuvent être très bien les prodromes d'une anarchie, en vue d'eux. Parce que c'est toujours par l'anarchie que ça commence. Et alors, on arrive comme ceux qui mettent réfléchissez là-dessus. Qu'est-ce que ça représente exactement? Parce qu'on doit essayer de comprendre ces choses-là, philosophiquement. Parce que économiquement, c'est très différent, mais philosophiquement, il faut essayer de comprendre ces choses-là. Comme moyen par rapport à ce que représente le bien commun. Alors la définition, ayez une fiche sur le bien commun, hein, en commençant par la phrase d'Aristote. Le bien commun est plus divin que le bien particulier. Point d'interrogation, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est le début de la politique d'Aristote. Le bien commun est plus divin que le bien particulier. Ça c'est cette fameuse phrase d'Aristote qui a fait couler du reste beaucoup d'encre et qui continue, parce que c'est très difficile. Vous ne pouvez pas dire que le bien commun est plus divin que le bien personnel. Et c'est le bien de chacun comme partie. Le bien du tout l'emporte sur la partie. Ça, c'est vrai. Mais l'homme, comme personne, n'est pas une partie. Et c'est là qu'il faut bien comprendre ce que dit Aristote. Le terme chacun. Chacun, c'est on est partie. Parce que si vous dites que le bien commun est supérieur au bien de la personne, ça va très loin. L'État, tous les pouvoirs, là, vous tombez dans le totalitarisme. C'est toute la différence qui existe dans un État qui respecte la personne humaine et un État qui ne respecte pas la personne humaine, qui la manipule. Et cette phrase, Aristote, est très importante à bien retenir. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a des travaux qui sont faits sur le bien commun. C'est intéressant à réfléchir, puisque c'est le bien commun. Réfléchissez d'abord sur le bien commun d'une communauté religieuse. Hein. Les automobiles. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bien commun? Les outils. Et comme c'est difficile, même chez des gens vertueux, que sont des religieux, même chez des gens vertueux, comme c'est difficile de respecter le bien commun. Comme c'est difficile. Oui. Parce que ça existe. Ça exige, quand on est en face de quelque chose qu'on ne sait pas, de demander conseil. On n'a pas le droit de se servir de n'importe quoi, d'un outil, sans savoir comment on s'en sert. Alors, très souvent, ce qui se passe dans le bien commun, c'est que l'outil est commun à tout le monde. Alors l'outil spécialisé, il encaisse. Une automobile, c'est un outil spécialisé. Vous ne pouvez pas demander à une petite voiture fatiguée, poussive, qui a 80 ans, auto à 80 ans quand elle dépasse un certain moment, de demander de marcher comme une auto neuve, tout ça. Alors, si vous ne tenez pas compte de ça, l'instrument n'est pas respecté. Le respect de l'instrument, c'est très important. C'est une réflexion là-dessus, philosophique. Il faut d'abord la regarder au plan philosophique. C'est bon, ça. Alors, on devient un citoyen intelligent et organisé quand on a beaucoup réfléchi sur le bien commun. Il y a les deux choses, hein, le bien commun et la personne et l'individu. Bon, je continue. Je vous ai rappelé la fois dernière, un tout petit peu, vous remettre dedans, c'est un petit peu différent. Nous étions arrivés à ce point de regarder la famille comme l'aspect fondamental de la communauté politique. Et je vous avais rappelé, parce que c'est important, il faut quand même lire chez Aristote ce qu'il dit sur la famille. Ce n'est pas prédicable. Ne prenez pas dans une conférence sur la famille. Écoutez, je vais faire une conférence sur la famille chez Aristote. Non. Il faut, à partir d'Aristote, réfléchir. Et c'est sûrement sa philosophie politique qui est la plus conditionnée selon le point de vue historique et le point de vue des lieux. Ça, c'est sûr. C'est la philosophie la plus conditionnée, c'est normal. L'éthique l'est déjà un peu, mais beaucoup moins. Parce que c'est une éthique personnelle. Tandis que la communauté, depuis Aristote jusqu'à nos jours, voyez toute la différence. Une petite cité grecque, ça ne charmant. C'était charmant, et puis si on avait pu garder, tu vois, à faire un petit musée d'une petite cité grecque, on irait la visiter en disant oh, c'est le paradis. Ça. C'était pas le paradis du tout, mais ça fait rien. Ça nous semblerait ça. On voit ça encore en Grèce quand on a les petites îles. Parce que les îles permettent de faire un musée. Mykonos, petite île de Mykonos, je me souviens, c'est. J'ai pu visiter plusieurs fois Mykonos, c'est merveilleux. Parce que ça n'a pas changé. Ce sont des artisans, et uniquement des artisans. Il y avait le tailleur qui était catholique. Tout le reste, c'était des orthodoxes. Mais il y avait le tailleur. Je ne sais pas si c'était pour faire des soutanes, mais il y avait le tailleur qui était catholique. La seule famille catholique. C'est assez extraordinaire. Et quand j'ai une petite église catholique, là, une petite église catholique qui reste au milieu de toutes les autres, il y avait la fleur de lys. T'as de choses comme ça, on se demande qu'est-ce tout ça vient, comment ça se fait au milieu de tout ça. Et on sent très bien, parce qu'il y avait, c'était une île, il n'y avait pas de voiture. Quelques vélos, tout le monde à pied. Ça ne se permettait pas, du reste, les routes étaient trop petites, on voulait, il fallait tout détruire, on avait des automobiles là-dedans. C'était ânes. Une petite cité grecque, la cité grecque. Alors, c'est la cause exemplaire, il ne faut pas l'oublier. La politique grecque, elle est comme ça. Alors, la famille représentée, et ça, je crois que c'est très important alors à saisir, c'est que la famille représente l'aspect fondamental. Et quand je dis fondamental, je veux dire quelque chose qui a son indépendance. Un petit peu comme dans des fondations. Puisque c'est construit, cité. La politique implique le facere. Il y a un facere humain. C'est pas entièrement naturel. Il y a un fondement naturel par la famille. La famille jouait un rôle beaucoup plus important dans la cité grecque que dans notre cité. C'est normal, étant donné le nombre. Et puis, étant donné que l'aspect économique était rattaché à la famille. C'est là-dessus qu'on avait terminé. Cette chose sur laquelle on doit beaucoup réfléchir. On doit beaucoup réfléchir là-dessus. Parce que sûrement que l'aspect économique joue aujourd'hui un rôle capital. Quelquefois même trop grand. Ça, il faudra y réfléchir au point de vue philosophie politique. Alors, je vais simplement regarder ça. Pour Aristote, ce que je vous disais, lisez attentivement ce qu'Aristote dit sur la famille, ce qu'Aristote dit sur l'esclavage, qui est rattaché à la famille. Et c'est très important de voir la distinction que fait Aristote entre l'esclave, qui est illégitime, et l'esclave légitime. C'est très curieux. L'esclave qui n'est pas normal, c'est l'esclave qui est la conséquence de la guerre par la violence, par le tyran. Et puis l'esclave légitime qu'Aristote considère naturel, phousiké, l'esclave phousiké, c'est celui qui a besoin d'un autre pour pouvoir vivre une vie humaine. Disons, d'une façon plus précise, c'est celui qui est incapable d'arriver à acquérir la prudence, la sagesse pratique. Je crois que c'est ça le critère. Évidemment, aujourd'hui, si on regardait tous ceux qui sont incapables d'atteindre la prudence qu'on les met esclaves, ça irait pas du tout. Mais voyez, c'est très curieux parce qu'au fond, il faut bien voir qu'à l'intérieur de la vie religieuse, avant Vatican II, restait dans la vie religieuse ce qu'on appelait les frères converts et les religieux de cœur. Mais comme l'Église est conservatrice, dans toutes les ordres, partout. Vous trouvez ça chez les Chartreux? Et ça vit encore comme ça chez les Chartreux? Les vrais commerces, c'est ceux qui ont le travail manuel. Le gros travail manuel. Et les Chartreux avaient leur petite maison et vivaient leur vie contemplative. Les frères convers, dans les communautés religieuses, au Carmel, ben, c'était celles qui avaient le gros travail manuel. Et les autres faisaient de la dentelle. C'est-à-dire, les autres pouvaient contempler puis un petit peu de travail qui était pour les autres. Ces petites images, la manière des saintes religieuses. Ben, c'était en plus, c'était pour les amis du Carmel, pour les gens qui faisaient des petits bienfaits. Alors, une petite image pleine de dévotion, avec un peu moins d'art et beaucoup de dévotion. C'était quelque chose d'assez particulier. Bon, mais c'était au fond la distinction ancienne du citoyen et de celui qui n'était pas citoyen. Les religieux de cœur, seuls avaient le droit de vote, actif et massif. Les frères convers n'avaient pas le droit de vote. Mais c'est quand même très curieux, ces choses-là. Et au fond, c'était un restant de la cité grecque. Il faut quand même comprendre ces choses-là. Je parle au plan sociologique. Vous voyez ? Je parle au plan de la structure politique. La charité et la grâce fait qu'il n'y a plus esclave ni homme libre. On est au-dessus. Mais d'autre part, la grâce ne supprime pas, il est évident, la culture. Elle ne supprime pas la diversité. Elle ne supprime pas la diversité de métiers. Alors, ça pouvait très bien se structurer. Je comprends très bien comment Vatican II supprime cela. Je comprends très bien. Ça a d'autres inconvénients, comme toujours, comme tout le temps. Mais je comprends très bien. C'est plus évangélique. C'est plus vrai au point de vue évangélique. De faire que, de fait, tous aient la même vie fraternelle. Les uns étant plus capables de faire telle chose. Les autres étant moins capables et plus capables dans d'autres domaines, on s'entend en famille. Mais on a tous la même dignité humaine et divine et religieuse, ce qui est beaucoup plus vrai. Mais voyez comme ça a mis du temps. C'est extraordinaire ça, c'est l'envol. Moi ça me frappe beaucoup ça. Et on doit y réfléchir, mais ça ne me scandalise pas. Certains, ça les scandalise. Oh, voilà, voilà. La révolution n'a pas pénétré dans les cloîtres. C'est vrai, heureusement, tu vois. Elle aurait supprimé les cloîtres, tout simplement. Que la révolution les supprimait. Et je dirais quand même, la révolution a renforcé encore l'esprit traditionnel, comme toujours. Quand on va trop loin dans une réforme, vous voyez, l'attitude progressiste a engendré une attitude du carré romain, qui n'est plus romain, et qui est donc le carré tout court, renforcer une espèce d'attitude de repli sur soi. C'est très curieux ces choses-là, ça va en soi. Alors, lisez dans la politique d'Aristote, dans le livre premier, il faut tous avoir le livre premier de la politique d'Aristote. C'est très beau à lire, c'est facile à lire. Et il faut au moins avoir lu ça. Je ne vous demande pas de lire toute la politique, mais au moins lire ça. Parce que c'est là où on trouve sa philosophie de la famille. Et ça vaut la peine. Ça fait partie, je crois, de quelque chose qu'on doit regarder. Il n'y a pas de philosophie de la famille chez Platon. Aucune. Aristote est le premier. Alors, faites une petite topie historique sur la philosophie de la famille. Vous verrez, ça c'est vite fait. Ça c'est vite fait. Vous avez le livre de Fourastier, qui n'est pas tout à fait de la philosophie, mais qui est l'histoire de la famille par rapport au droit du père et des mères et d'enfants et du mariage. C'est intéressant, c'est du Fourastier, c'est descriptif, c'est sociologique. Mais c'est pas de la philosophie. intéressant de voir l'évolution de la famille. C'est vrai que c'est ce qui évolue le moins. Ça, c'est ce qui évolue le moins. Ça, tout le monde le sait. C'est un fait, donc c'est ce qui demeure le plus. Au point de vue profond, qu'est-ce qui explique les célibataires pour des buts religieux sont souvent plus révolutionnaires que les pères de famille. Les curés et les religieux, c'est quelquefois beaucoup plus révolutionnaire. De toute façon dangereuse, quelquefois, parce qu'ils n'ont pas la responsabilité. Tandis que le père de famille a une responsabilité. Alors il sait ce que c'est que l'éducation. Tandis que les religieux suivent facilement des idéologies, puis ne veulent pas paraître en retard. Alors, pour Aristote, la famille implique la relation du maître et de l'esclave. Donc, c'est très important de voir ça.
Peut-être le sérieux d'Aristote, qui est le premier, hein,
Ça, c'est quand même un titre de noblesse pour le philosophe, pour Aristote, qui est le premier à considérer qu'entre l'homme et la femme, il peut y avoir une véritable amitié. Il est le premier. Et c'est peut-être à cause de ça que saint Thomas est venu à Aristote. Ça ne m'étonnerait pas. Il est le premier à avoir considéré qu'entre l'homme et la femme, donc il considère qu'il y a une âme spirituelle chez la femme. Tandis que chez Platon, je ne crois pas. Il ne le dit pas, hein. Mais je ne crois pas. Parce qu'Aristote, il y a véritablement une amitié entre l'homme et la femme. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir une famille. Alors, il y a donc la relation de maître et l'esclave, nous allons y revenir, puis la relation de l'époux et l'épouse, puis la relation des parents et des enfants. Toute communauté est un tissu de relations. C'est ça le propre d'une communauté, c'est un tissu de relations. Et donc, si vous voulez analyser une communauté, il faut analyser ce tissu. Il y a des relations avec des nœuds, avec des coopérations et des oppositions. Vous avez donc trois coopérations. La coopération du maître et de l'esclave dans le travail manuel. La coopération de l'époux et de l'épouse dans l'amour, l'amitié, la filia, et la relation des parents avec des enfants dans l'éducation. L'éducation, les parents sont actifs et les enfants sont passifs. Mais il faut la coopération des deux. Parce que s'il n'y a pas de coopération des deux, il n'y a plus d'éducation. Il y a un moment où les enfants n'acceptent plus l'éducation et donc ils se mettent en dehors. Donc vous avez trois coopérations. Et toute la famille est vue dans Aristote selon ces trois coopérations. Elle est l'élément premier de la cité. On voit famille, village, cité. Là, on est en présence de la maison. Point de vue architectural, c'est la maison. Il y a une unité. Il y a une unité, la maison qui implique peut-être la forge, qui implique peut-être la ferme, qui implique, c'est la maison. On voit très bien cette espèce d'unité économique. Unité d'amitié et économique. Tout ce qui grouille autour. La maison. L'ensemble des maisons, c'est le village. Et plusieurs villages forment la cité. Et la cité, quand elle est parfaite, c'est la cité politique. La politeia. La cité politique, ça, donc, c'est très simple comme vision, vous voyez. Alors, pour nous, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'évolution de la maison, de cette communauté. Il y a quelque chose de très net, c'est que la relation du maître et de l'esclave, donc l'aspect économique, qui est la base, qui est le fondement, c'est la base, a complètement changé. L'économie est sortie de la famille. Ça, c'est, on ne peut pas nier. L'économie est sortie de la famille. Surtout à partir du moment où, de fait, on a découvert le point de vue de la machine. Parce que tant qu'on restait dans l'art artisanal, il pouvait y avoir, en plus de la relation du maître et de l'esclave, il y avait les coopérations du Moyen-Âge. des métiers. C'est le point de vue du commerce par la monnaie. Le commerçant, c'est celui qui, grâce à la monnaie, va permettre les échanges. Ah oui, le commerçant est plus lointain du travail que l'artisan, que le fermier, parce que celui-là produit directement. C'est uniquement au niveau des échanges. Et c'est les échanges qui ont été à l'origine de la monnaie. Alors là, il y a un point de vue aussi très intéressant, parce que c'est capital, c'est de regarder, ayez une fiche sur la monnaie, et relevez tout ce qu'Aristote dit sur la monnaie, ça vaut la peine, parce que c'est son pesant d'or. Alors c'est très intéressant de regarder ce que dit Aristote sur la monnaie, et la monnaie commence à cause du commerce, des échanges. Pour que les échanges aillent mieux, il faut la monnaie. Alors, l'analogie de la monnaie et de la parole, c'est toujours intéressant à voir. Alors là, il y a quelque chose de très important à voir. Bon, je continue. C'est au Moyen-Âge, avec la coopération des métiers. On reste dans l'art artisanal. Mais alors, dès que l'industrie est apparue, immédiatement, de plus en plus, l'usine fait sortir de la famille. Alors que, tant qu'on reste dans leur artisanat, c'est lié à la famille. C'est lié à la famille de façon diverse, mais c'est lié à la famille. On voit encore ça dans certains coins. Je connaissais un endroit, un village en France, dans le nord, où il y avait un village entièrement de marbriers. Dans le village, il y avait 30 marbriers. Alors, il y avait le petit patron, et puis les autres qui travaillaient. C'était annexe à la famille. Il y a la famille de celui qui possédait et qui ordonnait les autres. Eh bien, en 20 ans, ces 30 marbriers ont disparu. Et des changements extraordinaires. C'est pas loin, tout ça. C'est pas loin, on le touche. Mais ça va très très vite aujourd'hui. Les changements. On est passé donc de la corporation. On comprend très bien que pour la corporation des métiers, autant que possible d'être ensemble. Puis après, il y a des échanges. Les échanges impliquent des possibilités de commerce et tout cela. Mais les corporations se demandaient d'être le plus proche. Alors ça se rassemblait. On avait comme ça des petites cités de dentelle, de marbre, de bois, et ainsi de suite. On voit très bien les corporations. Alors avec l'usine et l'industrie, tout ça saute. Et se sépare de la famille, et de plus en plus se constitue quelque chose d'intermédiaire. Le domaine économique, les sciences économiques étudient cet intermédiaire tout à fait particulier, qui est à la fois la production et les échanges. Puisque la production est liée à l'échange au marché. Le marché, c'est le lieu de l'échange. Alors, il faut voir comment c'est né. Et voir que, de fait, ce point de vue économique grandissant de plus en plus, et nous atteignons maintenant à un nouveau changement. C'est évident que l'ordinateur, l'automation, fait que tout ça va encore changer. On arrive à une économie internationale. L'économie ne peut plus être l'économie d'un pays. Elle est dépendante. Du point de vue international. Vous voyez, ce qui était entièrement annexe à la famille, le maître et l'esclave, sort de la famille par les corporations, mais restant annexe à la famille, s'isole complètement et prend son autonomie avec l'industrie. Et l'industrie, devenant de plus en plus complexe et de plus en plus rapide, l'économie va dépasser l'aspect politique pour arriver à une économie internationale. Et au fond, c'est ça le gros problème pour la philosophie. philosophie politique, c'est un problème énorme. Parce que non seulement la famille n'a plus d'autonomie économique, mais un État n'a plus d'autonomie économique. Et il y a quelque chose qui fait que l'autarchéa grec, l'indépendance, l'autarchéa, c'est un mot sacré pour la politique, l'indépendance, l'autarchie, l'indépendance n'existe plus. Vous êtes en face d'alliances internationales. Alors, savoir qu'est-ce qui commande tout, la banque. Parce que ça va au-delà des points de vue politiques, qui fait que tout est chapeauté par une série de relations d'ordre purement économique qui deviennent internationales et qui deviennent de plus en plus anonymes. Forcément. Et en fond, l'humanité est prise dans ce carcan qui fait que la politique d'un État est dépendante de cela. Et la politique, la vie, la survie de la famille dépend aussi de ça. Et de l'individu. Et le problème de la grève, hein. Vous voyez, quand on dit que c'est commandé par d'autres, on comprend très bien. La mainmise sur ça permet que, économiquement, on peut mettre un pays en faillite. En le mettant en faillite, on le met en dépendance. Donnant, donnant. On fait des contrats. Tous les contrats qui peuvent se faire au point de vue international, au point de vue armement, au point de vue économique, qu'est-ce que ça représente? Ce qui met en tutelle un pays. C'est un fait qu'au point de vue philosophie politique, on doit se poser. Alors, que devient la philosophie politique dans ces conditions? Est-ce que la philosophie politique est tout simplement remplacée par la science économique internationale? Vous comprenez bien, on retrouve un problème analogue en éthique. Est-ce que l'éthique est dépassée par la psychologie, par la psychanalyse, par la biologie? Pour certains, ça ne fait pas de pli. Monod disait ouvertement que l'éthique devait se modifier selon le progrès biologique. D'autres disent ouvertement l'éthique doit se modifier en fonction de la psychologie et de la sociologie. Et c'est dans ce sens-là que ça gagne jusqu'à la famille, ça on y reviendra. Aujourd'hui, on met en question de savoir si la famille est vraiment quelque chose de naturel, pas naturel, pour moi conventionnel ou confessionnel. C'est une autre genre, une autre manière d'être conventionnel. Bon, on s'affronte à ces problèmes-là aujourd'hui qui sont très très difficiles philosophiquement. Alors, le philosophe ne peut pas abdiquer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la vie de l'homme. Le philosophe doit reconnaître que de fait, il est de moins en moins écouté. C'est un fait. Le philosophe doit être silencieux. Mais il doit regarder et s'intéresser à ses problèmes parce que l'homme risque d'être dans une situation limite. Sur cette question de la situation limite, sur laquelle il faudra revenir, parce que ça, politiquement, on la touche toujours. Mais il reste une philosophie politique, à cause de la communauté des hommes. Mais vous voyez, si je prends le schéma moderne, actuel, là j'ai le schéma aristotélicien. Le schéma aristotélicien est très simple. Le fondement ici, deuxièmement, le point de vue, d'une certaine manière, de la coopération et de la division du travail, et troisièmement, la cité. Le schéma moderne, c'est quoi? La famille a diminué d'importance. Bon, ça, c'est bien évident. Vous avez encore de ces fermes familiales extraordinaires. Encore, vois ça. Pas en vilain. La vache ne pénètre pas dedans. Mais encore ces fermes-là. Vous voyez encore ça dans certains pays. On trouve encore ça. Ces forteresses familiales qui font du reste quelque chose de très particulier. On a toujours un peu l'impression que c'est un vestige d'un âge révolu. S'il y a quelque chose qui reste, qui un peu féodal. Quelque chose d'assez particulier. Donc vous avez la famille. Philosophique, hein. Parce que certains diraient plus ça du tout. Ça, c'est le schéma qu'il faudra prendre à côté. Bon, vous avez la famille qui restera le noyau central. Et dans la famille, il y aura deux relations. Époux, épouse. Dans l'amour d'amitié, la fille demeure. Et puis, vous avez parents et enfants.
Va avoir une vie d'amitié
individuel et personnel. Ça le regarde. Le tout, c'est dans son travail. Il pourra avoir une intervention politique et puis le point de vue économique qui va tout commander. Je crois qu'il faut bien voir ça. C'est que l'économie, de fait, a pris une place primordiale. Ceci n'empêche pas une philosophie